Nous sommes ici dans une belle salle, la salle de la Fondation La Main à la Pâte pour l'enseignement des sciences. Bonjour Claude, je suis face à toi, géophysicien Claude Jopard. Nous allons parler aujourd'hui d'un bel exemple de collaboration scientifique entre la France et les États-Unis. Ça se passe au début des années 70, si je ne dis pas de bêtises, et nous allons en parler. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de l'expédition Fambus, qui a consisté à explorer les fonds marins, et en particulier la dorsale, qui se trouve au milieu de l'océan Atlantique. Une dorsale, c'est le relief sous-marin qui ressemble à une chaîne de montagnes, mais qui n'en est pas une.
Alors, j'aime beaucoup l'acronyme Fambus. Famous, fameux, célèbre, ça veut dire quoi ?
Franco-American Undersea Studies, donc l'étude sous-marine franco-américaine.
C'est super comme titre.
Ah oui, ben ils ont longtemps travaillé pour le trouver. Hein.
Alors raconte-nous de quoi il s'agit et quel était le but de cette... C'est une expédition en fait.
Ah oui, une reconnaissance, puisqu'on n'avait jamais été observer les fonds marins avec autant de précision et surtout à cet endroit-là. Donc c'est tout simplement parce que la théorie de la tectonique des plaques avait vu le jour et qu'il fallait la tester. La théorie de la tectonique des plaques était née en fait de la théorie de la dérive des continents et on avait compris qu'en fait c'était pas les continents qui se déplaçaient comme par magie, c'était qu'ils se déplaçaient parce que les océans s'écartent. Et donc la preuve de la tectonique des plaques, c'est qu'il fallait la trouver au fond des océans. Et évidemment à l'époque on ne savait pas le faire et l'idée ça a été d'abord de monter les appareils, les bathyscaphes et les sous-marins qui étaient capables d'aller suffisamment profond pour aller les observer, et puis de choisir l'endroit où on allait chercher les preuves de l'expansion des fonds océaniques. Donc il fallait que le continent se soit déplacé.
Alors, la profondeur, il faut aller là-bas, il faut plonger à des profondeurs colossales, non ?
La dorsale mélo-atlantique, elle est à peu près à 2500 mètres de profondeur.
Alors, d'un point de vue technologique, c'est difficile d'aller à ces profondeurs.
À l'époque, il y avait très peu de sous-marins qui étaient capables d'aller à ces profondeurs-là. Les Américains en avaient créé un qui s'appelait l'Alvin, dans le milieu, je dirais, 1965, par là. Alors, l'Alvin, c'était un petit sous-marin. On avait des bathyscaphes qui étaient des espèces de gros engins, des gros machins, qui étaient très difficiles à manœuvrer, et puis surtout, qui étaient très difficiles à équiper pour faire des études scientifiques.
Mais pas habité.
Le bathyscaphe ?
Oui.
Ah si, si.
Ah, il y a quelqu'un qui est dedans.
Ah bah, il y avait des gens qui étaient dedans, oui.
D'accord.
C'était des gros machins, avec tout un équipage. Et donc ça, la France en avait un qui s'appelait l'Archimède. Et puis les Américains avaient dit, ça c'est pas vraiment la meilleure manière d'aller étudier les fonds marins. Il faut être capable de manœuvrer, d'aller se glisser à travers le relief qu'on devine dans les fonds marins. Ils avaient inventé l'Alvin, qui était cette petite soucoupe. Et les Français, pour ne pas être de reste, avaient... suivi ça, ils avaient créé la sous-coupe qui s'appelait Siana, qui elle, a été lancée en 1968-1969. Donc il se trouvait que l'Amérique et la France, en fait, avaient développé les mêmes outils pour étudier la même chose de manière simultanée. Et évidemment, plus on est nombreux à étudier un phénomène, et mieux on va avancer.
Alors, ce petit monde descend au fond des océans, à 3000 mètres. Ils ont des caméras, j'imagine. Ils voient des choses. Qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit rien ? Il fait noir, non ?
Alors, il fait totalement noir. C'est la nuit complète. Et il faut savoir qu'en fait, même avec les gros projecteurs qu'on pouvait avoir, on avait une vision qui se faisait sur quelques mètres seulement. Donc, c'est extrêmement difficile de s'y reconnaître si on n'est pas géologue et si on n'est pas préparé. Donc, il avait fallu préparer la mission pour se dire... quel type de formation on peut essayer de retrouver là-bas, et on va essayer d'en voir sur Terre. Ce qui fait que la première partie de cette mission a consisté à aller en Islande, où il y a plein de choses volcaniques là-bas. Et là, on va regarder tout ce qui est volcanique en Islande pour essayer de comprendre ce qu'on va être capable de retrouver dans les fonds marins.
Et quand ils ont plongé, ils ont cherché quelque chose qui ressemblait à ce qu'il y avait en Islande.
Eh bien, ils ont recherché le fait... Alors, il fallait rechercher la preuve qu'il y avait bien des éruptions volcaniques dans les fonds marins. Et s'il y a des éruptions volcaniques, il y a des coulées de lave. Et s'il y a des coulées de lave, elles ont une forme très particulière, parce qu'une coulée qui se met en place dans l'océan, elle refroidit, donc elle forme une carapace, et cette carapace rond, et il y a des petites protubérances qui se forment, ce qu'on appelle des petits coussins, et ce qu'on appelle les laves en coussin. Donc la première chose qu'ils ont cherché, c'est des laves en coussin.
Et ils les ont trouvées.
Et ils les ont trouvées.
Alors aujourd'hui, la tectonique des plaques, plus personne n'en discute, c'est devenu un fait objectif et validé.
Mais c'est validé de mille et une manières, c'est ça l'intéressant, c'est que cette théorie, elle est très simple, mais elle se décline en de multiples manières, y compris dans les roches qu'on peut observer dans les continents.
J'imagine, Claude, que chacun des deux pays, la France et les États-Unis, a apporté ses compétences privées et personnelles, historiques. Alors, quelles étaient les compétences de chaque côté ?
C'est un bon exemple de collaboration, puisque chaque pays a apporté ses meilleurs spécialistes. Les Américains ont apporté ses spécialistes de la plongée sous-marine, des géophysiciens aussi, qui connaissaient l'environnement profond des océans, et puis les Français qui étaient des géologues et qui avaient bien cartographié des formations diverses et qui étaient capables de reconnaître des formations, même dans des conditions extrêmes, par exemple au fond des mers.
Alors finalement, ce FAMOS, c'est un bel exemple de collaboration que j'oserais dire amicale, entre deux pays, deux communautés scientifiques qui travaillent ensemble.
Ah, c'est un très très bel exemple. Et puis c'est aussi un exemple où finalement toutes les différentes équipes qui venaient de milieux très différents, il y avait des équipes universitaires, des équipes de chercheurs fermés, et puis des équipes de la marine, et puis de l'armée. Donc on voit qu'ici, des êtres humains ont été capables de se mettre ensemble pour résoudre un problème.
À 2 mètres de nous, il y a un magnifique globe terrestre. Alors je te propose qu'on aille le voir et que tu nous montres exactement du doigt là où tes amis, ou tes prédécesseurs plutôt, ont eu le plaisir de plonger.
Allons-y.
Allons-y. Alors montre-moi où, précisément.
À peu près ici, au niveau des Açores, en fait, au beau milieu de l'océan.
Alors, c'est là qu'ils ont plongé, c'est là qu'ils ont vu cette dorsale. Montre-moi le trajet suivi par la dorsale du nord au sud.
Ben, on part de l'Arctique, on traverse l'océan Atlantique nord au beau milieu. Là, on bifurque vers l'est pour aller dans l'océan Atlantique sud. L'océan Atlantique s'est ouvert en 2 phases, une fois au nord et puis après au sud.
Merci beaucoup, Claude. C'était une belle histoire, passionnante. Je me demande pourquoi je ne suis pas géophysicien. Merci infiniment. À bientôt.